chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. La tournée européenne de la famille Mozart entre 1763 et 1766 fut un long voyage dans les capitales et les grandes villes de l'Europe de l'Ouest, réalisé par Léopold Mozart, son épouse Anna Maria et leurs enfants, doués en musique, Maria Anna Nannerl et Wolfgang Amadeus. Léopold était musicien à la cour du prince archevêque de Salzbourg et en 1763, il occupait le poste de maître de chapelle. Il obtint une autorisation d'absence prolongée afin de faire connaître en Europe le talent précoce de ses enfants, alors âgés respectivement de 11 et 7 ans. Les performances musicales des enfants inspirèrent des manifestations de ravissement et d'étonnement partout où ils jouèrent. Toutefois, les avantages matériels de la tournée, bien que substantiels, ne transformèrent pas radicalement le mode de vie de la famille, ce qui obligea Léopold à reprendre son service à l'archidiocèse de Salzbourg. Ce voyage donna aux enfants une vision cosmopolite du monde musical et favorisa leur excellente éducation. Et Wolfgang entreprit d'autres voyages au cours des 6 années suivantes. Des 7 enfants nés de Léopold et Anna Maria Mozart, seule la quatrième, Maria Anna Mozart, Nannerl, née le 31 juillet 1751, et le plus jeune, Wolfgang Amadeus Mozart, né le 27 janvier 1756, ont survécu à la petite enfance. Les enfants furent éduqués à la maison, sous la direction de Léopold, apprenant les bases de la lecture, de l'écriture, du dessin et de l'arithmétique, avec toutefois un peu d'histoire et de géographie. Leur éducation musicale débuta dès le berceau, par l'intermédiaire des répétitions constantes de Léopold et de ses collègues musiciens. Quand Nannerl eut 7 ans, son père commença à lui apprendre à jouer du clavecin. Avec Wolfgang qui l'a regardé, et d'après ses propres dires, l'enfant montra immédiatement son extraordinaire talent, un talent venant de Dieu. Il passait souvent de longs moments au piano à jouer des tierces, et il en éprouvait un plaisir visible qui montrait qu'il en appréciait le son. Lorsqu'il eut 5 ans, il composa de courtes pièces que son père annotait pour lui. Un ami de la famille, le poète Johann Andreas Schachner, a raconté qu'à l'âge de 4 ans, Wolfgang commença à composer un concerto pour piano et fut en mesure de faire preuve d'un extraordinaire sens du rythme. Thank you. Nannerl elle-même fut une élève très douée, pas moins rapide à apprendre que son frère, jouant du clavier, avec une virtuosité remarquable pour ses 11 ans. Au cours de cette année 1762, Léopold emmena les enfants jouer à Munich devant Maximilien III, Joseph, duc et électeur de Bavière. Léopold, ensuite, emmena toute la famille à Vienne pour un voyage qui dura 3 mois. Il obtint sans peine des invitations de plusieurs mécènes aristocrates. Et dans les 3 jours de l'arrivée, les enfants jouèrent au palais du comte Colalto. Parmi les invités présents, il y avait le conseiller de la trésorerie de Vienne et le futur premier ministre, le comte Johann Karl Zinzendorf, qui nota dans son journal intime qu'un petit garçon, dont on disait qu'il n'avait que 5 ans et demi, en réalité il en avait près de 7 ans, jouait du clavecin. Après une audition devant le vice-chancelier impérial, les Mozart furent invités à la cour royale, où l'impératrice Marie-Thérèse testa les capacités de Wolfgang en lui demandant de jouer à l'aveugle, avec le clavier couvert par un tissu. Au cours de cette visite, Wolfgang rencontra l'archiduchesse Maria Antonia, la future Marie-Antoinette, reine de France, qui était de 2 mois son aînée. Le biographe de Mozart, Eric Blom, raconte une anecdote sur la manière dont l'archiduchesse aida Wolfgang quand il glissa sur le sol poli et elle aurait alors reçu une proposition de mariage en échange. Si elle avait épousé Mozart, sa vie aurait été sans nul doute beaucoup plus amusante et beaucoup moins tragique. Comme les Mozart commençaient à être marqués par l'aristocratie de Vienne, ils furent souvent appelés pour donner plusieurs spectacles au cours d'une seule journée. Ils furent récompensés pour tous ces concerts à la fin de la première semaine à Vienne. Léopold était en mesure d'encaisser l'équivalent de plus de 2 années de salaire. Leur calendrier fut interrompu lorsque Wolfgang tomba malade de la scarlatine et leur ancien élan ne fut pas retrouvé. Néanmoins, la visite de Léopold lui donna le désir de poursuivre ses possibilités de réussite sociale et financière. À leur retour à Salzbourg, Wolfgang joua du clavecin et du violon à un concert anniversaire de l'archevêque, étonnant toutes les personnes présentes. Dans une lettre à son ami, le propriétaire terrien Johann Lorenz Hagenauer, écrite après la tournée, Léopold cite les paroles du diplomate allemand Friedrich Melchior Grimm, qui avait dit, après avoir entendu les jeux pour les enfants, « Maintenant, pour une fois dans ma vie, j'ai vu un miracle. C'est le premier. » Léopold a estimé qu'il était de son devoir envers son pays, son prince et son Dieu d'exposer ce miracle aux yeux du monde en montrant Nannerl et Wolfgang devant la haute société européenne. Sinon, il serait lui-même la plus ingrate des créatures. Il a été suggéré par le biographe de Mozart, Idolsheimer, qu'au moins, dans le cas de Wolfgang, cette entreprise était prématurée. Dans toute l'Europe occidentale pendant des années, Léopold entraîna son jeune fils. Thank you. Les Mozart étaient encore à Paris quand ils décidèrent soudain de partir pour Londres. La cour d'Angleterre avait la réputation d'accueillir le mieux du monde les musiciens européens et d'être fort généreuse avec eux. Après une traversée très pénible entre Calais et Douvres, ils arrivèrent à Londres le 23 avril. Le premier logement de la famille Mozart à Londres fut au-dessus d'un barbier, dans Cecil Court, près de l'église de Saint Martin in the Fields. Des lettres de recommandation chaleureuses en provenance de Paris se révélèrent efficaces. Le 27 avril, les enfants jouèrent devant le roi George III du Royaume-Uni et son épouse, la reine Charlotte. Le 19 mai, Wolfgang a été invité par le roi à jouer des œuvres de George Friedrich Händel, Johann Christian Bach et Carl Friedrich Abel. Le roi était très impressionné par sa façon de jouer de l'orgue, plus encore que par son jeu de clavecin. Wolfgang accompagna la reine qui chantait une aria, puis a fait une basse continue à partir d'une aria de Händel et, selon Léopold, improvisa alors la plus belle mélodie, de manière telle que tout le monde en fut étonné. Voici un aria de Händel, comme celui que chanta la reine accompagnée par le petit Mozart. Les enfants de la famille Mozart ne furent pas les seuls prodiges musicaux du XVIIIe siècle. L'écrivain Gary Spruce précise qu'il y avait alors des centaines de cas similaires et cite celui de William Crouch de Norwich qui en 1778, à l'âge de 3 ans seulement, donnait des récitals d'orgue. Le chercheur britannique Jane O'Connor rattache la popularité des enfants prodiges à cette époque à la prise de conscience du potentiel de divertissement et de valeur marchande que représentait un enfant qui était d'une certaine façon prodigieux. D'autres contemporains de Mozart, enfants, furent le violoniste et compositeur Thomas Linley, le jeune, né la même année que Wolfgang, et l'organiste Sigmund Bachmann. Ce fut cependant Mozart qui devint finalement comme le plus représentatif parmi les prodiges. De toutes les œuvres sacrées de Mozart, celle-ci est la plus gaie, comme le suggère son titre latin, Exultate Jubilate, qui met d'emblée l'auditeur au diapason. Cet exercice de virtuosité pour soprane mobilise toutes les techniques vocales des coloratura, au rythme des ornementations, des rebondissements et des accélérations de la musique. Il semble que Mozart en appelle à la cantatrice comme à un instrument, reléguant l'orchestre au second rôle, tandis que la partition vocale de la soliste donne vie aux paroles.
Thank you.
Quant à cette charmante sérénade Grande Partita, Mozart la composa pour 13 instruments avant lorsqu'il séjournait à Munich. Il s'agit de l'une des plus grandes œuvres de musique de chambre pour instruments avant. Précédée par les hautbois, les clarinettes donnent le ton de cette suite grandiose. Tel un long soupir mélancolique, la musique évoque les murmures galants des libertins masqués qui faisaient la réputation des bals costumés de l'époque. Marie-France Guimard-Roche vous retrouvera pour un autre numéro de Bienvenue chez le Roi, enregistré et réalisé par Roland Richard dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel.